Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire qui est consacrée cette semaine au canal du Midi. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du chantier. Mais avant d'aller plus loin, justement sur l'histoire de ce chantier, il faut préciser que l'idée de Pierre-Paul Riquet n'est pas une nouveauté. En réalité, les sources à disposition des historiens nous révèlent l'existence de plusieurs projets à travers l'histoire. Il est même fait mention d'un projet de creusement sous le règne de Charlemagne, c'est vous dire. À la Renaissance, sous le règne de François Ier, un autre projet voit le jour. Il apparaît déjà plus précisément. Il est question de creuser de 14 lieues de Toulouse à Narbonne. Ensuite, le canal, en passant par l'Aude, les navires auraient donc pu naviguer jusqu'à la Méditerranée. En 1598, année de l'édit de Nantes, Pierre Renaud rédige un mémoire concernant le projet de joindre l'Atlantique à la Méditerranée en passant par la Garonne et l'Aude. Le projet a même l'oreille du roi Henri IV. Mais force est de constater que ce projet restera dans les archives. En 1633, un autre projet est présenté au cardinal de Richelieu. Celui-ci aussi reste lettre morte. Ces projets sont abandonnés car ils ne sont pas assez pensés au niveau de l'alimentation en eau du canal et proposent souvent un système de dérivation des eaux des rivières beaucoup trop complexe, voire impossible à mettre en œuvre. C'est donc le projet de Riquet qui verra le jour, mettant fin à un rêve vieux de plusieurs siècles et dont certains disent qu'il remonte à l'Antiquité. En effet, la construction d'un tel ouvrage permettrait d'éviter aux navires et aux marchandises de prendre la mer en contournant la péninsule ibérique. Or, à cette époque, le transport maritime comportait de nombreux dangers, comme le brigandage, les pirates, les corsaires barbaresques, sans oublier les taxes que devaient payer les navires du roi quand ils entraient dans un port espagnol. Le 1er janvier 1667 débute ainsi donc le creusement du canal, qui porte justement en lui de nombreux espoirs. Il faut donc recruter une importante main-d'œuvre. En premier lieu, et alors que le roi lui autorise, Riquet refuse à employer des paysans suivant le régime de la corvée royale, c'est-à-dire l'obligation pour les paysans, ou plus précisément tout individu soumis à la corvée, de travailler gratuitement pour la construction du dit canal et l'entretien des routes et chemins. Non. Pendant 15 ans, Riquet va embaucher des hommes et des femmes, environ un tiers pour les femmes entre 20 ans et 50 ans. Et des pancartes seront placardées dans tout le Languedoc, et sur ces panneaux, on pouvait lire. De par le roi, on fait savoir à tous les travailleurs qui voudront s'engager pour travailler au canal de la communication des mers, qui se construit en Languedoc, qu'il leur sera donné à chacun 10 livres par mois. Un mois après, Riquet fait savoir à Colbert que 2000 ouvriers travaillent sur le chantier. En septembre 1669, une nouvelle campagne de recrutement est lancée. Les pancartes annoncent cette fois les avantages proposés à ceux qui voudront rejoindre le chantier du creusement du canal. Et ces avantages sont pour l'époque très favorables aux travailleurs. Jugez-en vous-même. Il est donné 10 livres par mois, mensuellement, sans leur déduire les jours de fête, les dimanches et les jours où il pleuvra. Pour information, le repos dominical est rendu obligatoire pour les travailleurs en France en 1906, soit 237 ans plus tard. Un logement leur sera fourni, moyennant 2 deniers par jour, ce qui est une somme très favorable car cela ne représente que 3% de leur salaire mensuel. Les locataires d'aujourd'hui rêveraient d'un tel loyer. Mieux, les outils qu'ils vont utiliser leur seront gracieusement offerts. Charge à eux, bien sûr, de les entretenir. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Il est même garanti aux travailleurs du chantier que même s'ils tombent malades, leur salaire leur sera versé comme s'ils travaillaient. Pour que les travailleurs français aient le même avantage, il faudra attendre octobre 1945 et la création de la Sécurité sociale. De fait, le succès de ces avantages est rapide, car la même année, ce sont 6500 hommes et 500 femmes qui travaillent sur le chantier. Les années suivantes, au maximum, il y aura, comme cité dans les textes de l'époque, jusqu'à 12 000 têtes sur le chantier. Il est à noter que l'inégalité entre les hommes et les femmes est par contre nette. En effet, si un homme est comptabilisé comme une tête, il faut en revanche 3 femmes pour former une tête. La tête étant une unité de compte salariale, Vous comprenez donc qu'une femme est 3 fois moins payée qu'un homme. On ne peut pas être parfait partout. Hein. Cependant, ces avantages sont tels pour l'époque qu'ils provoquent la colère des propriétaires terriens. Eh oui, ils n'arrivent plus à recruter les ouvriers. Toutefois, malgré ces avantages, Riquet sera toujours confronté à un problème de désertion de ses chantiers pendant la période estivale. Oui, la plupart de ces ouvriers sont des paysans et ils rentraient pour faire les moissons et les récoltes.
Partagez vos événements sur notre antenne en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.